Bonsoir, comment allez-vous ? Nous sommes toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un. Quand dans la presse, je vois un reportage sur un bel hôtel ou simplement un manteau que je trouve joli et que je regarde le prix, il est évident que je ne fais pas partie de ce monde étalé là sous mes yeux. Je me sens d'une autre planète. Mais quand je donne 2 euros au gars qui fait la manche en bas de chez moi, j'ai l'impression d'être Madame Bettencourt venant d'hériter de Bill Gates. Là encore, un autre monde. L'académicien Frédéric Vitou a écrit chez Grasset « Longtemps, j'ai cru que Ginger Rogers avait raison ». Pourquoi ce titre ? Même si Frédéric Vitou nous livre là beaucoup de jolies et intelligentes choses, il avoue être un piètre danseur, mais un bon cinéphile. C'est cette phrase, prononcée par Ginger Rogers dans le film « La fille de la 5e avenue », qui a retenu son attention. Voici ce qu'elle dit. « Peut-être que les gens riches sont juste des gens pauvres avec de l'argent. Nous serions donc finalement de la même planète. »
Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 12 ans. J'aimerais savoir s'il existe un très bon moyen pour que les pauvres ne soient plus pauvres.
Esther Duflo, prix Nobel et professeure d'économie, que pensez-vous, vous qui faites des recherches sur la pauvreté, que pensez-vous de la question de Romain ?
C'est une excellente question auquel
vous travaillez sans cesse.
Je travaille sans cesse et la réponse est oui et non. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas une potion magique qui nous permettra d'éliminer la pauvreté une fois pour toutes et pour toujours. Beaucoup de gens essayent de dire que leur solution à eux, la dernière chose qu'ils ont trouvée, leur dernière trouvaille, est cette solution magique, mais en fait, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'il y a, c'est de multiples instruments, de multiples choses qu'on peut faire pour améliorer en profondeur les problèmes auxquels font face les plus pauvres. On peut se demander comment faire en sorte que les enfants pauvres aillent à l'école de manière régulière. Est-ce qu'il y a des moyens très efficaces pour faire en sorte que les enfants aillent à l'école ? Est-ce qu'il y a des moyens très efficaces pour faire en sorte que tous les enfants soient vaccinés contre les maladies qui peuvent les toucher pendant leur enfance ? Est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde puisse épargner un petit peu d'argent pour se protéger contre les mauvais coups de la vie ou pour acheter un frigidaire ou un vélo dont ils ont besoin ? À cette question-là, on peut répondre oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'outils dont on peut montrer l'efficacité.
Par exemple ?
Par exemple, on peut se poser la question comment faire en sorte pour que tous les enfants aillent à l'école et ne manquent pas de jours d'école. On peut essayer tout un tas de moyens. Par exemple, on peut dire il faut payer les uniformes ou les vêtements scolaires dans les pays où les uniformes sont obligatoires pour aller à l'école. On peut dire non, ce qu'il faut faire, c'est construire plus d'écoles. On peut dire non, ce qu'il faut faire, c'est donner aux parents des allocations qui seraient supprimées si les enfants n'allaient pas à l'école, etc., etc. Et ce qu'on peut faire, ce qui est le plus malin, c'est de dire comparons l'efficacité de chacune de ces méthodes de manière tout à fait rigoureuse en essayant de mettre en place ces méthodes dans certains endroits et pas dans d'autres et en comparant les résultats qu'on obtient. Ça nous permettra de dire quel est le moyen le plus efficace qu'on peut mettre en place de la manière la plus large possible, par exemple parce que ça ne coûte pas très cher ou que c'est facile à faire, qu'on pourra ensuite généraliser. Ces recherches ont été faites par tout un tas de chercheurs qui ont essayé toutes les méthodes dont je faisais la liste, dont une, toute simple, auquel on n'aurait pas pensé, c'est simplement de donner aux enfants, tous les 6 mois, un médicament pour lutter contre les vers qu'ils peuvent avoir dans l'estomac. On peut dire qu'est-ce que ça a à voir, les vers dans l'estomac et l'école. Et ce que ça a à voir, c'est que les vers dans l'estomac sont en compétition avec l'enfant pour sa nourriture. Et donc, l'enfant qui est atteint de vers est anémique, fatigué, manque beaucoup de jours d'école. Donc, même les enfants qui sont inscrits à l'école finissent par rater 1 jour sur 5, 1 jour sur 6, simplement à cause de cela.
Pour apprendre, il faut être en bonne santé, ne pas se battre sur un autre front.
Voilà. Sinon, on rate l'école. Une fois qu'on a raté l'école, on ne comprend pas. Même si on est à l'école, c'est quand même plus difficile de rester réveillé. Or, c'est très, très facile à traiter, ces vers intestinaux. Ça coûte très peu cher. Ça coûte 1 € par enfant et par an. Et si on fait ça de manière systématique, on voit que les enfants vont à l'école beaucoup plus souvent, donc 15% en plus, ça correspond à peu près à 1 jour par semaine en plus, qu'ils restent à l'école plus longtemps et qu'une fois que ces enfants ont grandi, ils gagnent plus d'argent.
Donc en fait, vous êtes en train de nous dire qu'il existe des petites solutions pour des grands problèmes parfois.
Oui. D'une part, qu'il est bon de prendre l'énorme problème de la pauvreté et de le couper en problèmes un petit peu plus accessibles, qu'on peut comprendre mieux. Et d'autre part, que pour ces problèmes-là, il peut y avoir des petites solutions qui ont un effet bien plus large que ce qu'on aurait pu imaginer.
Voilà, vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez demandé comment on relève les empreintes digitales. Vous avez aussi demandé si tous les organismes vivants dorment et qui a inventé les espaces entre les mots. Le vétérinaire Joël Dehas a écrit tout sur la psychologie du chien, édité chez Odile Jacob.
Allô, je m'appelle Joël, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir comment les chiens sauveteurs en neige arrive à retrouver les gens sous l'avalanche ou sous la neige. Au revoir.
Bonsoir Well, si c'est bien ton prénom. Moi aussi je me pose cette question. Merci de nous avoir appelé, docteur Joël Dehas. Well vous demande donc comment font les chiens pour retrouver les gens, surtout la neige. On imagine que ça doit peut-être barrer les odeurs.
Mais non, ça ne barre pas suffisamment les odeurs puisque le chien arrive. C'est par l'odorat. Hein. Well, c'est par l'odorat que le chien va chercher les gens qui sont enfouis sous un mètre de neige, même sous l'eau. Le chien peut aller sentir ce qu'il y a en dessous de l'eau, en dessous d'un mètre de neige, en dessous dans les décombres. Il y a toujours des odeurs qui passent puisque l'odorat du chien est à 1 000 000 à 100 000 000 de fois supérieure à celle de l'être humain, le chien peut détecter. Donc quelques molécules d'odeur, il peut les détecter même à travers un mètre de neige ou plus qu'un mètre de neige. Alors il doit bien sûr avoir appris à aller creuser pour aller rechercher la personne sans abîmer la personne.
On connaît les Saint-Bernard comme chiens de neige. Est-ce qu'il y a des races de chiens plus performants ?
Les Saint-Bernard ont été remplacés par des chiens plus légers qu'on peut porter par hélicoptère et qu'on peut parachuter même.
Moins encombrant.
C'est moins encombrant et donc on a préféré prendre des bergers belges, des bergers allemands, mais la préférence pour les bergers belges qui ont 25-30 kilos, qui sont plus faciles à manipuler.
Et vous dites que la neige ne barre pas l'odeur et les chiens, puisque Well parle de l'avalanche, par exemple les décombres en cas de tremblement de terre et tout ça, c'est la même chose ?
C'est la même chose, oui.
Le ciment, la poussière, la terre, tout ça, ça ne...
Au milieu de tout ça, le chien peut sentir les odeurs des humains qui sont l'odeur des blessures, l'odeur du sang, l'odeur de la transpiration. Tout ça, il peut récupérer.
Oui, pour les chiens policiers, par exemple, si quelqu'un a disparu
N'importe quelle odeur de la personne, le chien peut aller retrouver. Le chien peut pister, on a fait des tests, avec des vrais jumeaux qui ont théoriquement la même odeur. S'ils mangent la même chose. Et puis le chien peut faire la différence entre les pistes de vrais jumeaux.
Et même des tout petits chiens qui ont l'air d'être un peu gadgets ont ces performances ?
Les tout petits chiens sont des vrais chiens.
Les chiens nous rendent bien service et inversement. Hier, j'ai rencontré Avenue de Versailles. Avenue de Versailles, c'est l'avenue qui part de la maison de la radio pour aller vers l'ouest. Un monsieur qui tirait un chariot. Vous savez, ces chariots qui servent à réalimenter les rayons dans les supermarchés, un plateau à roulettes avec un manche. Sur ce chariot, il y avait un grand sac de voyage. Ce sac de voyage était plein, mais pas fermé complètement. Et par la partie ouverte, dépassait une tête, deux petites oreilles et deux grosses pattes poilues. Il y avait un gros chien là-dedans, genre rétriveur. Je me suis dit, tiens, un monsieur qui promène son chien, paralysé. Et puis, ils sont rentrés dans une clinique vétérinaire et ça m'a un peu fendu l'âme. Le monsieur caressait la tête de son chien de temps en temps. C'est ça qui m'a laissé à penser que c'était peut-être pas une promenade ordinaire. Donc j'espère qu'ils sont rentrés dans cette clinique vétérinaire pour un embarras passager et pas pour une dernière balade. J'ai voulu, en repassant aujourd'hui, prendre des nouvelles du chien, mais je n'ai pas osé.
Tu sais, ça fait des semaines que j'y pense. Des semaines qu'entre nous, y a rien qui avance. Et t'as beau avoir de l'encre sous la poche, t'es pas dit chérie, mais t'es loin, très loin d'être au niveau. Avec toi ça part, mais je pardonne dans tous les sens. De toute façon y'a rien qui compte à part ce que tu ressens. Et t'as beau savoir me parler comme il faut, j't'ai pas dit chérie, mais t'es loin, très loin d'être au niveau. J'ai pas envie de me passer, passer de lui. Pas envie d'embrasser, d'enlacer, d'en aimer un autre que lui. Pas envie de me passer de lui. Comment éteindre l'incendie, tout s'anime, tout s'envenime à chaque fois qu'il me sourit. Quand je t'imagine là dans mon ventre, ça me relance. C'est juste que j'ai pas eu ma dose et qu'à l'évidence t'es pire qu'une meuf qui fait son incomprise. Et tu vas me serrer la main et plus me faire la bise. Mais de la distance, des kilomètres de conséquences. C'est blanc ou noir quand tu veux, je t'apprends les nuances. T'es pire qu'une meuf qui fait son indécise. Et je compte plus les fois ou parfois, ouais, parfois tu me grises. J'ai pas envie de me passer de lui. Comment éteindre l'incendie, tout s'anime, tout s'ennuie à chaque fois qu'il
chaque fois qu'il me détruit. Chaque fois qu'il me détruit. Chaque fois qu'il me détruit. J'ai pas envie de me passer, passer de lui. Pas envie d'embrasser, d'enlacer, d'en aimer un autre que lui. J'ai pas envie de me passer, passer de lui. Comment éteindre l'incendie, tout s'anime, tout s'envenime à chaque fois qu'il me détruit.
Pas envie, extrait de la playlist de France Inter, c'était Marie-Flore.
Les petits bateaux sur France Inter.
Agrégé normalien, Pierre Bergougnaud est donc enseignant, mais aussi écrivain.
Bonjour, je m'appelle Esteban, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir qui a inventé les espaces entre les mots. Au revoir.
Qui a inventé les espaces entre les mots? Mais est-ce seulement quelqu'un, Pierre Bergougnaud?
Eh bien, Esteban, on sait qui, où et quand. Alors, ce sont les moines irlandais. L'Irlande, c'est une île qui accrochait l'Angleterre. Du 7e siècle. Et
L'Irlande, c'est une île qui est accrochée à l'Angleterre. Vous n'êtes pas souvent allé en Irlande, Pierre Bergougnaud, pour donner une définition comme ça. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Hein.
Je le sais.
Poursuivons.
Ces moines parlaient une langue très différente du latin. Ils devaient s'occuper de latin. Bon, c'est les moines copistes, ils recopiaient des manuscrits couverts de latin. Mais ils étaient embêtés, à la différence des moines français, par exemple. Parce que ce parler irlandais était très très différent du latin. Alors, il y avait une complication qui valait pour tous. Jusqu'au 7e siècle, tous les textes sont écrits en bloc. Il n'y a pas d'espace entre les mots. Si tu vois parfois une inscription romaine gravée dans la pierre, tu constateras qu'il n'y a aucune séparation entre les mots. Or, ça entraîne une grosse complication. Essaie toi-même d'écrire sans respecter l'espace et tu verras, on ne comprend pas très bien. Et la seule
on
façon,
comprend rien.
Presque rien, effectivement. Et la seule façon de se tirer d'affaire, de se dépêtrer de cette difficulté, c'est de lire à voix haute. Ce sont les sons qui sortent de notre bouche qui nous renseignent, en quelque sorte, sur les limites des mots écrits qui défilent sous nos yeux. Donc, les moines du continent français, espagnol, italien, que sais-je, qui parlaient des langues issues du latin, ne rencontraient pas ces difficultés parce que leur langue ressemblait quand même au latin. Pour les moines irlandais, c'était, si je puis m'exprimer de la sorte, du chinois ou de l'hébreu. Donc, ils ont eu l'idée d'introduire un blanc entre deux mots, de marquer la séparation par cet espace vide. Et par le fait même, ils n'ont plus eu besoin de lire à voix haute. Et en même temps qu'ils inventaient le blanc entre les mots, ils inventaient la lecture qu'on qualifie de silencieuse. Alors, cette découverte a été limitée pendant pas mal de temps, un demi-millénaire peut-être, à l'Irlande. Et c'est à partir du XIIe, XIIIe siècle, avec l'usage intensif de l'écrit en Europe, par exemple la réapparition des villes et surtout de l'université, de grands établissements scolaires, la Sorbonne date de 1280, qu'on se met à pratiquer systématiquement la lecture silencieuse.
C'est drôlement intéressant. C'est vrai que c'est impossible quand même de lire des mots qui sont enchaînés les uns aux autres. D'ailleurs, quand on a un nom très long à lire et compliqué, un nom qui est étranger pour notre oreille, eh bien on le sépare par syllabes, enfin c'est ce que nous faisons nous à la radio pour arriver à le dire sans trop nous tromper. Oui, je sais, parfois on se trompe quand même, mais on essaye de limiter les dégâts.
Bonjour les petits bateaux, je m'appelle Gabriel, j'ai 11 ans et je voudrais savoir si tous les organismes vivants dorment. Merci, au revoir.
En tout cas, tu es tonique, Gabriel. Professeur Isabelle Arnulf, vous êtes chef du service des pathologies du sommeil à la Pitié-Salpêtrière. Que pensez-vous de la question de Gabriel?
Gabriel, c'est une très bonne question. Alors, oui, très probablement. En tout cas, tous les organismes vivants ont des périodes de repos et des périodes d'activité. Alors, même une huître, même un poisson, même un cochon d'Inde, même et surtout ton chat que tu as dû voir dormir énormément. La question se pose plutôt pour les végétaux. Est-ce qu'il y a un sommeil des plantes? Alors, tu sais, il y a des plantes qui ferment leurs pétales. Ils ont quand même des moments où ils vont se retirer de leurs échanges avec l'extérieur. Ce qui fait penser que ces périodes de repos régulières, qui surviennent tous les 24 heures, sont indispensables si tous les animaux vivants en ont. Ce qu'on va trouver de différent d'une espèce à l'autre, c'est la quantité de sommeil. Tu sais, par exemple, qu'un être humain adulte, ça dort à peu près 7 heures. Beaucoup d'animaux dorment environ 12 heures. Parmi tous les organismes vivants, l'humain est plutôt un court dormeur.
Ah bon ? Je me suis laissé dire que le lion dormait 20 heures.
Le lion peut dormir 20 heures. La plupart des prédateurs dorment bien longtemps et beaucoup. Les proies, chaque fois qu'elles dorment, elles peuvent se faire croquer par un prédateur. Donc elles vont dormir par petits bouts. Beaucoup, mais par petits bouts. Dès qu'elles ont la possibilité, les oiseaux vont dormir par tout petits bouts perchés. Ils dorment pas dans leur nid, hein, ils dorment perchés.
Ah oui.
Voilà. Alors évidemment, tout le monde a essayé de chercher s'il n'y avait pas une espèce vivante qui ne dormait pas. Et il y a une race de poissons très particulière qui sont aveugles et qui vivent dans des grottes. Et s'ils sortent de la grotte, ils ne peuvent pas survivre parce qu'ils n'ont plus d'yeux, ils ne peuvent rien voir. Et ils sont contre le courant, donc ils doivent sans arrêt remonter le courant et être en activité. Et eux, c'est ceux qui dorment le moins. On s'est rendu compte qu'eux avaient beaucoup d'un produit éveillant qui s'appelle l'orexine. Mais quand même, il y a des petits moments où ils se lâchent, ils partent un petit peu dans le courant, le temps de dormir une fraction de seconde et puis il remonte. Mais d'une manière générale, tout le monde a besoin de se reposer et de dormir, d'identifier du sommeil. Pour ça, il faut qu'on ait un cerveau, et tous les animaux n'ont pas un cerveau, mais ils ont des formes de diminution d'activité.
Le professeur Isabelle Arnulf a écrit « Petit guide visuel du sommeil » édité chez Mango.
Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say?
Vous aviez reconnu Elvis Presley, bien sûr. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Adrien. J'ai 8 ans, je voudrais savoir comment on relève les empreintes digitales. Merci.
Bonsoir Adrien, ce livre est parfait pour toi si tu as 8 ans, sur les traces de la police scientifique. C'est édité chez Le Pommier dans la collection Les Mini-Pommes et ce livre est écrit par Patrick Rouget, responsable des services de police technique et scientifique au sein de la police judiciaire toulousaine. Comment on relève les empreintes digitales, vous demande Adrien.
Bonjour Adrien, alors ta question est très très vaste. Alors il faut savoir d'abord qu'au bout des extrémités de ton corps, et notamment de tes doigts, tu possèdes ce qu'on appelle des dessins digitaux, composés de sillons et de crêtes. Ces dessins digitaux, ou empreintes digitales, sont formés dès que tu es dans le ventre de ta maman, au bout du deuxième mois de ta vie intra-utérine, et ils resteront au bout de tes doigts jusqu'à ce que ton corps se putrifie.
Ah bah dis donc, on les garde tout le temps, si je comprends bien.
Voilà, elles sont immuables. Alors, à cause de ta transpiration, tous les jours, dès que tu vas toucher un objet ou un document, avec tes mains ou le bout des doigts, ces dessins digitaux vont se transférer, de façon visible ou invisible, sur ce support. Alors quand on est spécialiste de la police technique et scientifique, on cherche sur la scène de crime ces traces papillaires laissées par les malfaiteurs. Et donc, on va d'abord les chercher avec de l'optique, c'est-à-dire des grosses lampes très puissantes en lumière blanche ou avec des longueurs d'onde de la lumière visible, c'est-à-dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et après, en fonction de la composition de la sueur, tu as plein de produits chimiques à l'intérieur. Nous aussi, on va prendre des produits chimiques qui révèlent ce qu'il y a dans la sueur et qui vont nous révéler les empreintes digitales.
Donc, il y a deux façons d'aborder les empreintes digitales, de les voir ou bien de les analyser chimiquement.
C'est ça.
On en a sous les doigts de pied ?
On en a sous les doigts de pied et on en a sur les paumes des mains. Et moi, dans une affaire, il y a très très longtemps, que j'ai eu à analyser et à voir, à la demande d'un magistrat, il y avait eu une tentative d'assassinat avec un couteau qui avait un manche très très gros. On avait révélé des empreintes digitales de la paume du malfaiteur.
Mais Patrick Rouget, comment pratiquement on les relève, ces empreintes digitales ? Parce que, d'accord, on met de la lumière, d'accord, on met des produits, mais quand on est sur place, mais comment on fait après pour constituer un dossier, les transporter, les montrer les...
Alors, il y a deux solutions. Ou l'empreinte est transférable directement, c'est-à-dire on va ou chimiquement ou avec de la poudre dactyloscopique. Cette poudre va se coller sur la sueur et là on va voir l'empreinte apparaître, en noir en général. On a une espèce de scotch, un peu plus épais que du scotch qu'on trouve dans le commerce, et on va transférer cette empreinte sur le scotch et on va la ramener au service pour la photographier et la comparer directement avec un suspect s'il y a un suspect, ou l'insérer dans la base de données nationale, le fichier automatisé des empreintes digitales. Ou, deuxième solution, on la relève chimiquement sur le terrain, et là, on va ramener que la photographie judiciaire. Et troisième solution encore, si ce sont des objets transportables, on va transporter les objets jusqu'à nos laboratoires et on fera le travail dans nos laboratoires.
Par exemple, le manche du couteau, on le transporte au labo.
Le couteau, on le transporte au labo. La bouteille, le verre, on le transporte au labo. Et on va révéler au labo l'empreinte digitale. Mais de toute façon, si elle a été révélée avec des produits chimiques, on ne fera qu'un transfert photographique.
Donc, nous suons des doigts, et c'est pas chic, mais c'est comme ça. Vous avez remarqué que la pomme et la paume ne sont pas le même mot, ne s'écrivent pas de la même façon, même si ces deux mots peuvent se prononcer de la même façon suivant les régions. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Ces petits bateaux sont terminés, ils sont à retrouver sur franceinter.fr. Nous, c'est Jean-Baptiste Audibert et Kevin Pelot pour les garçons, Eliane Gérard-Margerie de Voucou et Noël Bréham pour les filles. Et nous vous laissons avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.